Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Avec Kaoutar Archi.
C'est parti!
Des œufs crus et pas de mari depuis l'année 1938 l'ont gardé jeune à 115 ans. C'est ainsi qu'une vidéo de la BBC nous présentait une fringante centenaire. Sachez également que l'italienne Emma Morano, doyenne de l'Europe, et Jessie Gallan, l'écossaise la plus âgée du pays, l'assurent toutes les deux, le célibat serait la clé de la longévité. Alors le couple est-il vraiment l'avenir de la femme? Puisque c'est bien connu, on ne réalise pleinement sa féminité qu'à deux ou plus avec enfant. Alors pathologie, maladie incurable, malédiction divine ou choix de vie, le célibat est en tout cas dans l'actualité. De Emma Watson à Marcella Yacoub, on va voir de quelle manière il a pu être politique pour les féministes et comment il se repolitise aujourd'hui. On va en parler avec Kaoutar Archi. Salut!
Salut Clémentine, ça va?
Écoute, ça va. J'expectore autant que possible. Et je suis aussi allée voir Angèle en concert.
Balance ton quoi?
Avec beaucoup de petites filles dans la salle. Donc voilà, c'était super. Je suis requinquée.
Super.
Et alors pour parler des news féministes, si vous nous écoutez précisément le jour de la sortie de l'épisode, c'est la journée internationale des droits des femmes et non pas la journée de la femme, merci. Donc on espère que vous allez ou que vous êtes tous et toutes allés manifester à la marche On arrête toutes et que vous avez participé en masse à la grève des femmes. Parce que c'est important de faire front, si vous en avez envie en tout cas. Et je pense qu'on a pas mal besoin de se défouler en ce moment avec le climat.
Et de se retrouver.
Voilà, de se retrouver entre nous. Et si vous êtes à Paris, on espère que vous allez ou que vous êtes allé au concert de La Poudre et que vous avez assisté à notre super DJ set du 8 mars au soir. Pour entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le célibat féminin et le célibat choisi, en novembre dernier, dans le magazine Vogue, la comédienne anglaise et ambassadrice féministe Emma Watson a reformulé son célibat en disant qu'elle était, en anglais, self-partnered, c'est-à-dire en couple ou en partenariat avec elle-même. Alors, est-ce que cette formule était un cache-misère, un euphémisme, un peu comme quand on parle de technicien de surface, alors que les femmes de ménage sont toujours aussi mal considérées? Et donc, elle a déclaré, je vais la citer en anglais, on en parlera ensuite en français, « I'm dating, yeah, as in not one specific person, but I'm going on dates. I never believed the whole I'm a happy single spiel. I was like, this is totally a spiel. It took me a long time, but I'm very happy. I call it being self-partnered. » Donc, je ne sais pas si Emma Watson avait anticipé l'écho qu'aurait sa déclaration, qu'on a d'ailleurs tronqué, puisqu'en fait, dans cette phrase, elle explique qu'elle n'est pas abstinente, qu'elle voit en fait plusieurs personnes, mais qu'elle n'est pas en couple avec une seule personne, que pendant longtemps, elle n'a pas cru justement à ce mythe d'être célibataire et heureuse, et que voilà, cette idée de self-partner lui est venue sur le tard. D'ailleurs, ça nous rappelle un petit peu l'euphémisme utilisé pour le divorce de Gwyneth Paltrow et de son mari, le chanteur de Coldplay. La formule était conscious uncoupling, c'est-à-dire des mariages en pleine conscience, voilà. En tout cas, suite aux propos d'Emma Watson, on peut s'interroger. Est-ce que être un homme ou être une femme célibataire, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a un double standard du célibat entre, je mets d'énormes guillemets, la vieille fille et le vieux garçon? D'ailleurs, pour les hommes, quand on parle d'un appartement de célibataire, en anglais, on parle de bachelor pad ou de man cave, forcément mal rangé d'ailleurs. My apartment's very clean without you. Mais ce n'est pas particulièrement péjoratif, alors que pour les femmes, est-ce qu'il y a un équivalent à part voilà, les cupcakes et le pinard? Je ne sais pas.
On peut peut-être effectivement essayer d'appréhender cette question en se disant que c'est aussi une réalité sociale, une réalité sociologique. En France, par exemple, selon les chiffres 2015 de l'INSEE, on estime que 37% des femmes sont célibataires face à 44% des hommes. De là, on peut considérer qu'en contexte français, la conjugalité demeure assez élevée. Mais comme on va le voir, les aspirations, les perceptions se transforment profondément et les pratiques sociales se reconfigurent. Je souhaiterais par exemple commencer par le terme même de célibat, qui peut apparaître comme étant un peu flou, et que tout le monde comprend d'une certaine manière comme étant opposé à la situation maritale. En effet, dans le Larousse, le célibataire, c'est celui ou celle qui est en état de se marier, mais qui ne l'est pas. On voit donc bien ici que le principe référentiel qui demeure, ça reste l'acte marital, ça reste le mariage. Ce principe se retrouve aussi pleinement dans la catégorisation que l'État va faire des individus, puisque célibataire, c'est aussi l'une des grandes catégories de l'État civil qui désigne les femmes ou les hommes non mariés.
C'est étonnant.
Et c'est très étonnant. Et on voit ici à quel point la question de la catégorisation à partir des structures et des perceptions extérieures est vraiment importante. L'article de Marie Bergström, de Françoise Courtel et de Géraldine Vivier, qui est très justement titré « La vie hors couple, une vie hors norme, point d'interrogation, expérience du célibat dans la France contemporaine » est paru récemment dans la revue Population en 2019, est assez instructif à cet égard. Et je les cite, « Cette définition stricte, donc la définition du célibat, renvoie à une époque où le mariage permettait de distinguer les personnes n'ayant pas formé d'union. » Des personnes en couple mariées et de celles qui sont célibataires, et des individus sortis de la conjugalité, les divorcés ou les personnes veuves. Or, avec la diffusion de l'union libre depuis le début des années 60, le mariage ne permet plus de situer les individus par rapport au couple, et par conséquent, les catégories légales ont perdu de leur sens sociologique. Les usages profanes du mot célibat se sont aussi émancipés du cadre légal pour désigner l'ensemble des personnes hors couple. On voit donc bien ici que le terme célibat recouvre une très grande diversité de situations et d'expériences, que ça nous renseigne assez peu sur les distinctions genrées et que malgré tout, ça reste extrêmement traversé par, comme on va le voir, des problématiques d'âge, d'origine, de trajectoire, de situation sociale et bien sûr, comme je le disais, de rapports de genre. Mais la question du célibat, si elle informe un statut, elle ne dit rien, par exemple, des pratiques sexuelles ou de la question de l'abstinence, ce qui est malgré tout important. À ce propos, Clémentine, tu souhaitais évoquer les trajectoires de deux femmes emblématiques.
Oui, effectivement, je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière pour resituer la place du célibat et du célibat féminin dans l'histoire, puisque pendant très longtemps, la seule manière d'échapper au patriarcat et à l'union conjugale, c'était ce qu'on a appelé l'entrée en religion. Mmh. Et un très bon exemple de rébellion contre cette norme, c'est Gabrielle Suchon, qui a vécu entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Sa vie est d'ailleurs absolument incroyable, puisqu'elle a été enfermée de force au couvent. Elle s'en est échappée. Elle est partie à Rome pour exiger du pape qu'il lui permette de revenir sur ses vœux forcés. Et elle a notamment écrit un essai qui s'appelle « Du célibat volontaire ou la vie sans engagement ». Ça, c'était en 1700. Donc, je vais citer un extrait. Comme par les liens du mariage, les femmes sont sujettes à leurs maris, attachées à leurs enfants, inquiétées par leurs domestiques et par les soins d'acquérir des biens temporels. Je fais connaître le bonheur des personnes libres qui sont exemptes de tant de chagrins. Voilà, quelle modernité quand même pour quelqu'un qui écrit en 1700.
Et qui est allé directement se plaindre chez le pape.
Oui, c'est
l'expression, va voir le pape. Elle est justifiée dans son cas. Un autre exemple aussi, c'est celui de Jeanne de Roing, qui est une féministe et socialiste, féministe socialiste du 19e siècle, et qui se positionne de telle manière à formuler une sorte de revendication politique et qui tente de dessiner une sorte de chemin d'émancipation à travers cette question du célibat. Ce qui est important, c'est de rappeler qu'à cette époque-là, la société civile réaffirme la privation des droits civiques et civils des femmes mariées, comme on peut le lire dans le dictionnaire des féministes à l'heure du code Napoléon, où la procréation et le mariage bourgeois sont fortement encouragés dans une perspective de politique nataliste extrêmement soutenue. Jeanne de Roing va tenter de se positionner par rapport à cette question et elle va notamment écrire un ouvrage titré « Du célibat » pour réagir de manière assez ferme à un article qui paraissait dans l'Écho et dans lequel on pouvait lire « Le vieux célibataire sans lien, vous pouvez être sûr que l'âge a apporté quelques singularités plus ou moins monstrueuses dans les habitudes de sa vie.
Mmh. »
C'est charmant. Et il faut aussi préciser qu'à l'époque, on soutient beaucoup moins l'union libre, cette pratique libérale, car sans contraception et sans avortement, les femmes se retrouvent dans une situation d'assez grande précarité.
Oui, et alors après ça, à la fin du XIXe siècle, on va voir se développer en France et un peu partout ce qu'on va appeler les métiers du célibat. C'est-à-dire que le célibat va être à la fois une condition de recrutement, mais l'éducation et la pratique de ce métier vont aussi renforcer la condition de célibataire. Donc ces métiers-là, par exemple, c'est institutrice, infirmière, demoiselle des magasins, demoiselle des postes. Et en fait, ces métiers vont être très formateurs, notamment pour les militantes féministes de l'époque, donc on en est ravis. Et on peut notamment parler du cas de Louise Michel, qui est institutrice. Et pour la question du célibat, on peut aussi évoquer des lesbiennes, comme la peintre Rosa Bonheur. En fait, quand on parle de célibat, c'est surtout vis-à-vis des hommes, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Et pour les plus radicales, il y a quelqu'un dont on a déjà parlé dans un épisode, c'est Madeleine Pelletier, qui va écrire « Le célibat, état supérieur ». Et pour elle, pour se soustraire à la domination masculine, cela passe par la chasteté, ce qui va évidemment fortement irriter les antiféministes au début du XXe siècle, qui vont dire que ces femmes militantes sont un troisième sexe, je les cite. Et donc ensuite, au cours du XXe siècle, les femmes vont acquérir de plus en plus de droits comme l'avortement. Et donc, à mesure que ces droits vont advenir, l'aura du célibat va se ternir, paradoxalement, et son image de bastion du féminisme va un peu se perdre, notamment parce qu'on va préférer les femmes en union libre, comme Simone de Beauvoir, par exemple. Donc, tout ça nous est raconté par le menu, encore une fois, dans le dictionnaire des féministes, qui nous explique que le féminisme des célibataires a été marginalisé et dépolitisé. Et effectivement, je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est vraiment une victoire assez réactionnaire de l'antiféminisme d'avoir réussi à retourner le propos pour nous faire croire qu'être célibataire serait une tare, finalement.
Oui, et ce que je trouve intéressant, c'est de voir effectivement la forme de mise en concurrence ou de compétition entre les femmes qui se disent en union libre et les femmes qui se disent célibataires. Donc on voit bien ici que ce qui est susceptible de faire l'objet d'un jugement social, voire d'un verdict excluant, c'est bien la problématique du rapport aux hommes et d'un rapport aux hommes qui passe par la pratique sexuelle. Ce qui est d'autant plus intéressant et ce qui me semble renforcer le potentiel politique de la position célibataire. Si on avance un peu dans le temps et si on se décale un peu dans l'espace, on peut signaler aussi l'essai assez retentissant qui paraît en 1962, Sex and the Single Girl, qui encourageait les femmes à être indépendantes. Le capitalisme patriarcal, après les mouvements de libération, pathologise, rend de plus en plus problématique la question du célibat en construisant de toutes pièces l'image de la célibataire aigrie, de la célibataire rabat-joie, comme celle d'une victime qui aurait un manque et qui serait incapable de le satisfaire par elle-même, tout en disant ne pas vouloir le satisfaire auprès d'une autre personne. Et on retrouve aussi le stigmate très fort de l'incomplétude. Il y aurait quelque chose d'incomplet, quelque chose d'inabouti, d'inachevé dans cette position célibataire adoptée par les femmes. Les exemples de double standard sexuel à l'encontre de la libido féminine ne manquent pas. On en a déjà parlé assez longuement. En 1991, par exemple, la journaliste américaine Suzanne Faludi, prix Pulitzer, avait mené une enquête dans un essai assez monumental, Backlash, retour de bâton en français. Elle analysait notamment comment, après les mouvements pour les droits des femmes dans les années 1960-1970 aux États-Unis, on avait méthodiquement sanctionné la libération de ces dernières en leur faisant croire qu'elles occasionnaient une perte, qu'elles provoquaient une sorte de gouffre, voire qu'elles engendraient des risques pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres. Solitude, dépression, et elles développeraient aussi, à ce qu'il paraît, des formes de troubles suicidaires.
What the fuck ? C'est cela, oui.
C'est cela, oui. C'est-à-dire que, finalement, les femmes qui seraient sans mari, ce serait une forme de déprime garantie. Ce phénomène que l'autrice va qualifier de revanche sur les combats féministes menés par les femmes va connaître diverses incarnations politiques, juridiques, mais aussi médiatiques et culturelles.
Oui, et d'ailleurs, elle donne un exemple assez précis, c'est celui des études soi-disant scientifiques qui vont être à la fois mal réalisées, mal interprétées et diffusées et instrumentalisées dans la presse américaine. Elle cite notamment une étude menée par Harvard et Yale qui, comme par hasard, est diffusée le jour de la Saint-Valentin en 1986, et selon laquelle une femme célibataire ayant une éducation universitaire et ayant plus de 30 ans n'aurait que 20% de chances de se marier dans sa vie. Et au moment où elle a 30 ans, selon cette étude toujours, elle n'aurait plus que 1,3% de chances. Donc voilà, c'est vraiment des études qui sont censées effrayer dans les chaumières. Et donc, tu l'as dit, le principe du backlash, c'est d'accuser les mouvements pour les droits des femmes d'avoir créé une génération de femmes célibataires, sans enfants et très malheureuses, alors que ce que dit finalement Suzanne Falloudi, c'est qu'en fait, ce sont les médias qui vont créer cette culpabilité et faire des femmes célibataires sans enfants des bêtes de foire, en fait. Et alors, plus proche de nous, on peut aussi mentionner la grande enquête de la journaliste américaine Rebecca Traister, qui est journaliste à New York Magazine, qui s'appelle « All the Single Ladies ». Elle a bien nommé ce livre. Elle l'a publié en 2016, donc c'est vraiment il n'y a pas longtemps, pour une raison particulière qui est que les femmes célibataires forment aujourd'hui une nouvelle catégorie sociale puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses, mais aussi une nouvelle catégorie politique puisqu'elles pèsent de plus en plus dans la balance. En tout cas, en 2016, elles constituaient un quart de l'électorat politique américain. Pour donner des chiffres, en 2009, la proportion de femmes américaines mariées est passée sous la barre des 50%. À 29 ans, seulement 20% des femmes américaines étaient mariées, contre 60% dans les années 60. L'explication de Rebecca Traister est la suivante. Elle explique que le mariage joue finalement contre les femmes qui ont souvent un moins bon train de vie quand elles se marient et aussi une moins bonne carrière, contrairement à leur mari, évidemment, dont le niveau de vie augmente et dont la carrière s'améliore aussi sensiblement. Et ce qu'elle note politiquement, qui est aussi intéressant, c'est que Barack Obama était le fils d'une mère célibataire, tout comme Bill Clinton. Et donc elle explique que voilà, ce célibat féminin, en tout cas des mères, a vraiment eu une influence dans la formation des élites, d'ailleurs politiques, pour lesquelles les Américains et les Américaines votent aujourd'hui, et donc voilà, des présidents et des présidentes de demain.
Si on se rapproche encore un peu plus dans le temps, on peut citer le livre de Nadia Dam qui est paru en 2018, qui est titré « Comment ne pas devenir une fille à chat ?»
Miaou.
Publié chez Fayard et qui porte sur le stéréotype de la femme à chat, de la vieille femme, de la dame au pigeon, qui accompagne cette idée, cette image, cette représentation de la femme célibataire. Nadia Dam écrit « En particulier pour une femme de plus de 35 ans, son statut va être constamment commenté, parfois avec des faux compliments qui mettent mal à l'aise. Tu as de la chance, tu es libre de faire ce que tu veux. Quand même, c'est vachement bien. Il y a encore une suspicion de la part de l'entourage. Chez elle, il y aurait forcément quelque chose qui cloche. Elle doit être folle, hystérique ou pas assez sexy. De manière générale, le célibat au féminin est perçu, écrit la journaliste, comme un statut subi dont il faut absolument sortir. C'est pour ça que je ne supporte pas l'expression célibatante. C'est supposé décrire quelque chose de positif, mais ça tombe à plat. En réalité, cela ajoute une pression sociétale. Le terme sociétal, je ne l'aime pas, alors pardon, les dates, je veux dire social, excusez-moi, supplémentaire. Ainsi, les femmes devraient se battre pour ne plus être célibataires. A contrario, il n'y a pas la même pression sur les hommes.
Ces derniers sans blague.
Oui, tout à fait.
Thank you, Captain Obvious.
Ces derniers n'ont pas de compte à rendre car ils ne sont pas encouragés à investir dans leur vie domestique. Pour les papas, toute une tribu se forme autour d'eux pour les soutenir. Tandis que la célibataire sans enfant est encore perçue comme un cas social.
Oui, elle dit bien qu'il y a une charge mentale en fait à ce célibat féminin qui est perçu comme suspect socialement.
Oui, et on retrouve bien à chaque fois cette forme d'asymétrie qui accompagne les inégalités de genre dans le domaine notamment des perceptions sociales. Il me semble que ce type de propos, la démonstration que fait ici Nadia Dam, doit être rapportée à des éléments qu'on pourrait qualifier de plus sociologiques, de plus structurels, pour bien comprendre que ce sont des lois sociales assez importantes qui, à une échelle macro, structurent l'organisation de la vie collective entre les hommes et les femmes. En disant cela, je pense notamment au phénomène que l'on dit le phénomène de l'hétérogamie, sous-entendu hétérogamie féminine ou, à l'inverse, hypogamie masculine, qui désigne, l'hétérogamie féminine donc, la situation du couple hétérosexuel dans laquelle la femme occupe une position sociale inférieure à celle de son conjoint.
C'est original.
C'est très original. Cette hypergamie féminine est l'une des clés, une clé parmi d'autres bien sûr, mais une clé importante tout de même, de la domination masculine, productrice d'une forme de dépendance matérielle, notamment de la femme à l'égard de l'homme. Il y a donc à chaque fois, il me semble, quelque chose d'une réflexion matérialiste qui prend en compte les déterminants sociaux économiques qui peuvent venir perturber quelque peu cette idée du choix du célibat. Quelles sont les femmes qui peuvent choisir d'être célibataire. Avec le cas d'Emma Watson que tu citais au départ, Clémentine, on voit bien à quel point c'est amplifié.
Oui, alors c'est peut-être un privilège, je ne sais pas, on en reparlera. En tout cas, la situation a évolué en partie puisque les femmes ont quand même accès aux études et au marché de l'emploi. D'ailleurs, le chercheur Milan Boucher-Valat en parle dans un article intitulé « Hypergamie et célibat selon le statut social en France, une convergence entre hommes et femmes ». C'est un article écrit en 2018 et publié dans la revue de l'OFCE. Je le cite, concernant le célibat, comme pour le diplôme, un statut professionnel élevé tendait à augmenter les chances de vie en couple chez les hommes, mais à les diminuer chez les femmes en France des années 60 aux années 80. En particulier dans une société française restée assez tardivement très rurale, le célibat des hommes agriculteurs dû à l'exode des filles issues de ce groupe a longtemps été la conséquence de l'hypergamie féminine la plus importante en termes d'effectifs. Cependant, au cours des dernières décennies, les différences selon la profession se sont atténuées pour les femmes, au point que les cadres vivaient aussi souvent en couple que les autres salariés en 2009, voire un peu plus souvent parmi les trentenaires. Le célibat continuait en revanche de s'élever avec le statut social des salariés chez les hommes.
On peut donc ainsi dire que, et on le voit depuis les quelques minutes où on s'en parle, la question du célibat, elle est vraiment à réinscrire à chaque fois dans des logiques spatiales, dans des logiques historiques, et en prenant en compte l'ensemble, on pourrait dire, des rapports sociaux qui s'y intègrent et qui, d'une certaine manière, la déterminent. Mais une chose est certaine, et je trouve qu'on le voit assez clairement à travers ces différentes citations, c'est qu'il y a une vraie relation entre une sorte de dimension matérielle de la possibilité célibataire, on pourrait dire, et la forte dimension féministe, la forte dimension politique que continue de revêtir cet aspect-là de la vie des femmes et le contrôle sur lequel la société espère pouvoir s'exercer.
Oui, et justement, pour parler de privilèges, mais de privilèges un peu paradoxal du célibat, il y a un autre livre dans l'actualité qui fait écho à cette discussion, c'est « En couple avec moi-même ». De Marcella Yacoub aux éditions Léo Scheer. Alors Marcella Yacoub, par où commencer? Si vous ne la connaissez pas, c'est une juriste, chercheuse et essayiste d'origine argentine qui a notamment publié des chroniques dans Libération, qui a écrit sur sa relation avec Dominique Strauss-Kahn, hélas. Bon, personnellement, c'est quelqu'un avec qui je suis généralement pas tout à fait d'accord. Elle avait déjà écrit La fin du couple, et là, En couple avec moi-même, on en parle parce que ça tombe vraiment dans le sujet de cet épisode, c'est une sorte de d'essai-roman fictionnel dans lequel elle se met en scène comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme quadra, ayant du succès, mais qui se rend compte qu'elle ne vaut plus rien sur le marché matrimonial. Elle se décrit non pas comme jeune et innocente, mais comme vieille et innocente. Je la cite, « Le nombre de candidats se raréfie tandis que leur qualité conjugale se dégrade. » Donc elle explique qu'elle a vécu 10 ans en couple, que les hommes, contrairement à elle, cherchent des femmes plus jeunes en excluant surtout la supériorité intellectuelle, mais que tout cela n'a rien à voir avec la beauté. Je la cite encore une fois, « Cette espèce de le complot social fait croire aux femmes qu'elles sont rejetées par les hommes qu'elles convoitent à cause de la nature. Si les femmes divorcent, elles perdent 90% de la valeur qu'elles avaient à leur mariage, contrairement aux hommes qui se bonifient et profitent de ce déséquilibre des forces. » Fin de la citation. Bon, elle explique aussi que certaines femmes, tout simplement, ne veulent plus être en couple cohabitant, car vivre avec un homme les dégoûte. Peut-être qu'on peut les comprendre parfois. Et de son côté, elle dit qu'il n'y a que 3 genres d'hommes susceptibles de vouloir se mettre en couple avec des femmes comme elle de plus de 40 ans. Donc, selon elle, ce sont les papis aisés, les ratés qui vivent à vos crochets,
oh, what a loser,
ou bien les psychopathes. Voilà, donc ça ne laisse pas beaucoup d'options. Donc elle explique que finalement, elle a arrêté de chercher et c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, c'est un livre assez balzacien et moi j'ai beaucoup ri en le lisant. Enfin, c'était un rire jaune.
Mais les trois catégories masculines qu'elle dresse laissent vraiment imaginer les rendez-vous de Marcela Yacoub avec des hommes comme étant particulièrement riche.
C'est très croustillant.
C'est très croustillant, ouais.
Alors, pour parler un peu de notre expérience, je ne sais pas si tu veux entrer dans les détails ou pas, mais qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Kaouta ?
La question du célibat, je la vis, je la perçois, je la comprends d'assez loin. Je n'ai pas de sentiment particulier par rapport à cette problématique. Ma trajectoire personnelle s'est inscrite un peu ailleurs. Mais...
Et oui, tu n'es plus concernée par cette question.
Tu vois, je ne suis plus concernée par cette question. Mais néanmoins, je reste, et c'est pour ça que je soulignais avant le potentiel subversif de cette situation-là, de ce statut-là. Et à mon avis, d'autant plus subversif si on y associe une forme de refus ou de critique à l'égard des pratiques sexuelles. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui se joue et qui est vraiment une sorte de interdiction de se dire sexuellement indisponible et bien sûr de manière complètement volontaire et consciente. Je pense que c'est cette espèce de retrait des femmes du marché sexuel, en fait, du marché des corps, qui nourrit le patriarcat et le fait agir de cette manière. Donc je reste évidemment très frappée par ça et très frappée bien sûr par cette asymétrie totale des femmes célibataires qui seraient solitaires et tristes quand les hommes, eux, seraient renvoyés au chemin de la solitude, de l'épanouissement, de la rencontre avec eux-mêmes, de l'exploration de la profondeur de leurs âmes, etc. C'est très insupportable.
Oui, je pense qu'en plus, ça conditionne aussi la manière dont les gens se mettent en couple, puisque ça fragilise, en tout cas symboliquement, les femmes sur ce marché-là, puisqu'elles ont l'air d'être plus en demande ou d'être moins sollicitées ou moins désirables. Donc en fait, tout ça a un certain nombre de conséquences, je pense, par la suite.
Et toi, Clémentine, comment tu perçois tout ça, ce débat ?
Alors moi, comme Nadia Dame, je déteste cette euphémisation très infantilisante de la presse féminine quand on parle de s'assumer, qui sous-entend déjà qu'il y a un problème à la base. J'ai des amis qui, au lieu de parler de célibatante, un mot valise quand même assez atroce, parlent de fémis badante. Je trouve ça assez drôle. Et moi, j'avoue personnellement que selon les périodes avec lesquelles je navigue avec ce célibat, je suis uniquement confrontée à cette question-là quand je me retrouve à des réunions de famille, ou en tout cas confrontée à des personnes dont le mode de vie peut-être est plus conventionnel que le mien, ou en tout cas avec beaucoup de personnes mariées de mon âge et avec des enfants. Voilà, c'est le seul moment où on me renvoie une image non normée, en tout cas en décalage. Mais c'est vrai que je remarque que ça suscite une certaine ambivalence, puisque le célibat féminin, en tout cas, est souvent encouragé, mais uniquement pour un temps limité, puisqu'il permettrait en fait de mieux sauter à pieds joints dans la vie conjugale. Ce serait une sorte de préparation à la vie matrimoniale, sous peine d'être ensuite ostracisé s'il dure trop longtemps. Ouais. Je pense qu'il faut aussi rappeler que c'est un argument lesbophobe ancien, ouais. Puisque finir vieille fille égale finir lesbienne, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout désirable. Et je pense qu'il faut aussi bien distinguer le célibat des femmes seules et le célibat des femmes seules avec un ou plusieurs enfants à charge. C'est pas forcément pareil. Et je pense néanmoins que dans le meilleur des cas, ça peut être une condition de bien-être quand on est en garde partagée et donc que ça se passe bien, puisque les femmes peuvent redevenir célibataires et vivre leur meilleure vie une semaine sur deux en refilant leur enfant à quelqu'un d'autre. Alors, on va écouter le témoignage d'Aline, qui est asexuelle, et nous parle de son rapport à la solitude et la manière dont elle s'en accommode. Spoiler, ça lui plaît plutôt.
Je pense que ça doit faire 3 ans. Et en tout, dans ma vie, j'ai été 3 ou 4 fois en couple. Et mon record a été, je pense, une relation qui a duré 3 mois. Donc, majorité. En fait, en gros, plus ou moins, j'étais célibataire toute ma vie, quoi.
Et du coup, comment t'es passée de subi à choisi, genre célibat, pas forcément un choix, à maintenant un truc assumé?
Bah, je pense quand même que dès le départ, il y avait une sorte de choix. Et puisque quand j'étais plus jeune, je disais tout le temps, vaut mieux être seule que mal accompagnée, etc. Si j'avais eu envie vraiment d'être en couple, bon, bah, j'aurais trouvé quelqu'un avec qui être en couple aussi. Hein. J'ai vraiment arrêté de chercher quelqu'un, d'espérer trouver quelqu'un, je pense, il y a 1 an. Je me suis juste dit, en fait, trop de rancards pourris ou juste ça me prenait une telle charge mentale de chercher quelqu'un, à chaque fois de répéter les mêmes choses, de jamais trouver vraiment quelqu'un qui me parlait, ou les rares fois où je trouvais quelqu'un, où je me disais, ah, peut-être, en fait, cette personne ne répondait pas la veille alors qu'on avait eu passé une soirée incroyable. Et donc, du coup, il y a eu cette idée de se dire, bon, mais en fait, je vais arrêter de chercher quelqu'un pour commencer, entre guillemets, ma vie et me lancer dans des plans voyage, bébé, etc. Et puis juste faire ça toute seule. Après tout, j'ai été célibataire pratiquement toute ma vie, ça s'est bien passé, donc pourquoi pas continuer comme ça. Pour moi, être célibataire, ça me plaît bien parce que je suis vraiment libre. Je fais ce que je veux, quand je veux. Je décide de partir en vacances quand je veux. J'ai pas besoin de me concerter avec quelqu'un avant de prendre des décisions. C'est reposant. En vrai, je rentre chez moi le soir, c'est tranquille. Je regarde ma série, je l'arrête quand je veux, je me couche à l'heure à laquelle je veux. Et il y a aussi cette tranquillité émotionnelle, parce qu'il n'y a jamais de haut et de bas dans une relation. Je ne vais pas tout d'un coup me dire « Ah mince, ça ne fonctionne pas en ce moment dans ma relation. Je ne sais pas ce qu'il a ou ce qu'elle a, blablabla. Il n'y a pas de risque de rupture non plus. » Donc ça, c'est très agréable, même si je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Mais quand même, ça manque un peu de paillettes dans ta vie. Ben, » en fait, les paillettes de ma vie, je les trouve ailleurs. Je les trouve dans mes soirées avec mes potes, les voyages que je fais, et là prochainement j'espère la famille, juste avoir une vie familiale avec des enfants. Et voilà. Après, ce qui est cool dans le fait de pas chercher quelqu'un et vraiment d'assumer complètement, c'est la tranquillité d'esprit, de pas être tout le temps en train d'espérer, d'attendre, et juste d'être tranquille, d'être bien.
Voilà, merci à Aline pour ce témoignage enrichissant. Du côté des ressources et des conseils, on ne peut que vous recommander de lire les articles universitaires d'Erika Flao, le site « Nouvelle forme de la solitude au féminin », mais aussi « Les célibataires des femmes singulières » de Geneviève Guilpin. Plus léger, il y a le guide de l'échec sentimental qui vient d'être publié chez J.C. Lattès. On vous renvoie également vers l'article de Jennifer Padjemi dans Slate, mais aussi au numéro du magazine Cosette qui est consacré à cette question-là au mois de mars. Sans oublier le livre d'Emmanuel Richard qui vient de sortir « Corps abstinent », puisqu'elle voit dans l'abstinence une source d'épanouissement, mais aussi de résistance aux normes hétéropatriarcales. Voilà, on vous le recommande.
Le moment
pop
culture,
pop culture.
Alors, que nous dit la pop culture du célibat féminin ? Eh bien, ma foi, bien des choses, puisque de la série historique de Mary Tyler Moore Show aux États-Unis à la série Broad City, en passant par la chick lit et la télé-réalité, il semble qu'il y ait en général une certaine anxiété culturelle autour de ce motif-là. Pour revenir toujours à l'Amérique du backlash, je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'est tellement croustillant que je ne peux pas m'en empêcher, puisque la figure de la célibataire est vraiment repoussoir dans le film Liaison fatale de Adrienne Lyne, qui est sorti en 1987 avec Glenn Close. Donc pour rappel, il s'agit d'une maîtresse éconduite à la libido débridée qui va poursuivre son amant, joué par Michael Douglas, jusqu'à lui sauter à la gorge et le menacer de mort. Donc c'est effectivement un portrait assez peu réaliste, qui entreprend savamment de diaboliser les femmes célibataires et émancipées sexuellement en les présentant tout simplement comme une menace pour les bons foyers traditionnels. Voilà, donc en matière de libido féminine, point trop d'infos.
Et effectivement, par rapport à d'autres types de représentations culturelles de cette question, Nadia Adam intervient aussi par rapport au personnage d'Eleonore Abernathy dans Les Simpsons.
« I'm a little burnt out. » So, sometimes, don't shoot me. I have a glass of wine with Buster here.
Et Nadia Adam considère, et elle écrit à ce propos, alors que le chien, en particulier le labrador, va symboliser le bonheur en couple, le chat, lui, va incarner le célibat au féminin. Et Nadia Adam poursuit, c'est ce cliché de la femme en peignoir élimée, assise toute la journée dans son canapé devant un feuilleton à l'eau de rose, bien sûr, avec son pot de glace ou de tarama dans son appartement qui sent la litière. Belle métaphore.
Merci pour cette description imagée, ça fait vraiment très envie. Alors ensuite, il y a une version peut-être plus visible, mais aussi plus glamourisée de ce célibat féminin qui n'en reste pas moins problématique, puisque le célibat va être montré dans ses œuvres de fiction comme un obstacle à surmonter. On remercie d'ailleurs au passage les scénaristes pour leur manque d'imagination. Et il faut surtout pas que ce personnage féminin-là soit trop désirable à long terme, sinon la société risque sans doute de s'effondrer. Alors évidemment, on pense à Carrie, Samantha, etc. dans la série Sex and the City et à ses phrases inoubliables « Single and fabulous » ou également « I love you, but I love me more
».« I love you, but I love me more ».
Toujours utile voilà, en cas de rupture.
En cas de besoin.
Et évidemment, il y a le personnage au cinéma et dans la littérature de Bridget Jones. En Angleterre, c'est le stéréotype de la spinster, donc de la vieille fille en devenir. « I haven't had a sniff of a shag in over 18 months ». Qui ne va trouver son accomplissement que dans le couple. D'ailleurs, désolée de vous spoiler, puisque dans le troisième opus du film, celui-ci se termine dans les noces et dans les langes. C'est littéralement la fin du film, mais aussi la fin de la vie de cette femme. Et en comparaison, le récit pour les hommes dans les fictions s'arrête rarement au moment de leur mariage ou au moment de leur accouplement et de leur reproduction avec une femme. Voilà.
Celle qui peut-être va bien plus loin encore et semble développer un discours assez critique à la fois dans ses prises de position publiques mais aussi dans les œuvres musicales qu'elle produit, c'est Shy, qui a affirmé à de nombreuses reprises et qui a chanté et qui a rappé qu'elle ne voulait pas de mec dans sa vie et elle en a fait d'ailleurs un morceau qui en parle assez clairement. Je ne peux pas poursuivre un
homme. Et on peut revenir aussi, encore une fois, aux séries télé. On peut citer notamment Dollface, qui a été diffusée sur la chaîne Hulu. Your personal relationships have all expired. Are you saying I don't have any friends? You have no friends. Donc c'est une série avec Kat Dennings. C'est une série un peu bancale, qui se moque pas mal de la génération des millennials. Mais elle nous intéresse puisqu'elle suit une jeune femme en couple très fusionnel avec son conjoint, qui se fait larguer et qui se rend compte à cette occasion qu'elle n'a plus aucun et aucune amie. Et donc qui va entreprendre de retrouver une vie normale et qui va donc essayer de rompre avec ce rapport de dépendance affective qu'elle entretenait avec son mec. Et c'est montré dans la série de manière assez drôle et assez métaphorique, puisque dans certaines scènes, toutes les filles larguées montent dans un bus et certaines descendent à différentes stations. Donc il y a la station se remettre avec son ex, la station sauter sur le premier venu, et ensuite toutes ces personnes arrivent à la gare et heureusement leurs amis les attendent, sauf pour le personnage de Kat Dennings qui se retrouve donc toute seule à la gare. Voilà. Je vous invite à regarder cette série. Et toujours sur la chaîne Hulu, il y a également en ce moment High Fidelity, qui est une nouvelle adaptation du livre de Nick Hornby qui avait déjà été adapté au cinéma. Et dans cette série, la condition de célibataire va consister à revisiter chacun de ses ex les plus marquants, mais aussi à trouver des vertus consolatrices dans la musique, puisque le personnage principal tient un magasin de disques et joué avec brio par l'actrice Zoe Kravitz. What's wrong with me? Why am I doomed to be left? Why am I doomed to be rejected? Je pense qu'il faut aussi faire attention au fait de ne pas faire porter intégralement le poids du célibat sur les femmes racisées qui ont pu parfois devenir des icônes du célibat, comme ça a été le cas pour les chanteuses Rihanna ou Eartha Kitt. Il faut quand même rappeler qu'il y a toute une histoire de la femme noire non mariée et qui a été discriminée. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et je pense qu'on ne peut pas ne pas faire une accolade au morceau de Beyoncé « Single Ladies ». Sans évoquer ce tweet iconique en anglais. Donc j'essaie de traduire. Beyoncé nous a pondu cette chanson avant de rentrer à la maison chez son mari. Voilà. Merci pour le paradoxe.
Mais je trouve que ce tweet-là, il était très drôle. Il m'a beaucoup fait rire quand je l'ai découvert. Et en même temps, je trouve qu'il décrit à chaque fois toute l'ambiguïté de la condition des femmes, en fait. C'est qu'on est toujours tiraillé entre mille injonctions et qu'il est très difficile de reconfigurer notre quotidien et nos pratiques à l'aune des théories féministes que pourtant on connaît par cœur, qu'on a pourtant enseignées, sur lesquelles on a écrit, sur lesquelles on a lu. Donc voilà, je trouve que ça fait vraiment, vraiment partie des dilemmes et c'est notre paradoxe minoritaire aussi. Enfin, il y a quelque chose là d'extrêmement fort.
Alors, qu'as-tu comme recommandation culturelle pour nous cette semaine, Kaïta?
C'est pas une recommandation culturelle, c'est plus une sorte de question que je me pose et que, voilà, sur lesquelles je réfléchis un peu. C'est vraiment la question de notre présence sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est absolument fondamental. Il s'y passe ce qui s'y passe, on le sait très bien, on intervient toutes de manière différente et je crois qu'on s'apporte toutes beaucoup. Et en même temps, c'est aussi un espace de grande violence. En disant ça, je dis ce que beaucoup d'entre nous ont déjà dit. Donc voilà, je trouve qu'il y a une vraie question à se poser par rapport à cet espace-là. Donc voilà, c'est aussi en lien, bien sûr, à tout ce qui s'est passé pendant la fameuse nuit des Césars.
La nuit la plus longue.
La nuit la plus longue de cette semaine-là, en tout cas. Donc voilà, donc je sais pas, il faut peut-être réfléchir à des stratégies de présence collective sur Twitter, comme ça existe déjà d'ailleurs. Voilà, à voir, épisode à suivre.
C'était le tuto bien-être de Kaoutar.
Exactement, parce que la santé mentale, ça compte.
Et oui, bah oui.
Et Twitter, c'est dur.
D'ailleurs, je me suis rendu compte que parmi les nouvelles fonctionnalités de Twitter, cela faisait apparaître donc, des tweets très repostés, retweetés, très sollicités, dont des tweets de harceleurs,
ouais.
Sans que l'on y soit abonné.
Ouais, tout à fait.
Vraiment, mais c'est incroyable, quoi. Donc, le patriarcat a des manières de se glisser dans les interstices, même quand on le repousse.
Ouais. Et quelle recommandation, Clémentine, pour toi ?
Alors moi, ce serait un jeu féministe, donc il y en a de plus en plus en ce moment, il y a notamment un qui est-ce féministe. Moi, celui que je voudrais recommander s'appelle C'est pas tabou. Comme son nom l'indique, ça se joue donc comme le tabou, il faut faire deviner des mots, mais cette fois-ci en lien avec la sexualité, les pratiques sexuelles ou encore l'anatomie. Donc bon courage pour faire deviner cisgenre ou pansexuel sans utiliser certains mots. Donc c'est un jeu de plateau et d'équipe, et ça fait partie d'une collection de jeux appelés Sexploration, qui sont diffusé par la société Topla, T-O-P-L-A. Et ça s'adresse en fait surtout aux ados, puisqu'on s'amuse en apprenant. Et en plus, ça parle de cul, donc voilà. Donc c'est vraiment un bon cadeau, je pense, à offrir à tous les ados autour de vous, mais aussi à des personnes adultes qui ont besoin de se familiariser peut-être avec ces termes et avec l'inclusivité en matière de sexualité.
Allô, allô.
Allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute ?
Nous répondons à une auditrice qui nous a écrit et qui nous dit « Comment se faire des amis avec qui partager des discussions politiques ?» Elle poursuit « Dans mon couple, ces sujets ne sont pas vraiment abordables de manière, disons, enrichissante ou non, pédagogique, de manière unilatérale, et je ne sais pas comment partager avec quelqu'un ou quelqu'une des choses de cet acabit. De plus, ayant un handicap particulier, j'ai beaucoup de mal à partager les activités militantes en communauté, comme les manifestations, les ateliers. Est-ce que vous auriez des idées ?» Merci à toi, chère auditrice, pour cette question.
Oui,
Clémentine.
Alors effectivement, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a d'autres formes de communautés que les communautés réelles.
Ouais.
On vient d'en parler en disant qu'on pouvait peut-être les quitter. Mm. C'est les communautés virtuelles. Donc évidemment, on a pas mal d'ambivalence face au harcèlement qui a lieu sur Internet et notamment contre les féministes. Mais ça peut aussi être des espaces de sociabilisation où on peut rencontrer des gens qui pensent comme nous ou pas forcément comme nous. Mais en tout cas, voilà, c'est des espaces de discussion, des espaces safe qui sont quand même assez riches. Et je pense qu'on peut se faire un certain nombre d'amis virtuels qu'on peut ensuite rencontrer en vrai. Donc moi, je te conseille peut-être pas de te mettre sur Twitter, mais en tout cas de te mettre sur Instagram et de suivre tout un tas de comptes féministes qui permettent ensuite voilà, de discuter et de se faire des potes. D'ailleurs, je me permets de renvoyer à un article que j'ai fait dans Cosette à l'automne sur la question des amitiés virtuelles, dans lequel Thibaut Thomas, qui est chercheur sur ces questions-là, rappelait à juste titre qu'à la Renaissance, les intellectuels correspondaient les uns avec les autres, parfois sans jamais se voir en Europe, et que Internet permettait d'avoir aujourd'hui ce même genre de rapport de connivence et de correspondance avec des inconnus qui peuvent être très riches. Voilà, j'espère qu'on a répondu à tes questions.
Merci beaucoup.
Alors c'est tout pour cette semaine, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le célibat féminin, le célibat choisi. Si vous aussi vous êtes self-partnered, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Vous pouvez aussi retrouver toutes les références dont on parle dans le descriptif de l'épisode. Et vous pouvez nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court. Salut, merci Kaoutar.
Merci Clémentine, à bientôt.
Quoi de meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Kaoutar Archi.
Monté et mixé par Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Prise de son et coordination Ashley Tola.